Louvoigny. Cette semaine, Caroline Brouet rencontre Thierry Marx. Ce soir, le petit gars du 140.
Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Merci de nous recevoir
plaisir.
Pour ces avoinus. Nous sommes ensemble pour 5 émissions, 5 fois 30 minutes ensemble. C'est un immense plaisir que de discuter avec vous. Thierry Marx, vous êtes chef cuisinier doublement étoilé et chef d'entreprise. Vous êtes à la tête aujourd'hui d'une petite dizaine de restaurants. Près de 800 personnes travaillent dans vos entreprises. 2 restaurants sont au Japon. En France, le grand restaurant 2 étoiles, c'est le Sur Mesure, au Mandarin Oriental. Il est à Paris. Et puis, vous avez aussi plusieurs brasseries. On peut citer le 58 à la Tour Eiffel, l'Étoile du Nord, qui est Gare du Nord à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. L'Étoile, vous avez aussi une brasserie, vous en avez une à Lyon, la Villa Marx, et une à l'aéroport de Nice, la Plage, et puis vous avez 3 ou 4 boulangeries aussi, on va parler du pain avec vous parce que c'est très important. Mais vous êtes un chef un peu hors norme, on pourrait dire anticonformiste, on verra avec vous si le mot vous convient. En tout cas, votre parcours et votre personnalité détonnent dans le milieu de la gastronomie française. D'ailleurs, vous n'aimez ni le mot chef, ni le mot gastronomie. Vous êtes une personnalité qu'on dit authentique, franche, ouverte, généreuse, charismatique, médiatique aussi. Vous avez fait 5 saisons comme juré à Top Chef, l'émission très populaire. Et puis vous avez à cœur, Thierry Marx, de transmettre votre savoir-faire, vos valeurs, puisque les valeurs vont avec votre savoir-faire. Considérant que la cuisine est un lien social, vous avez ouvert des écoles de la deuxième chance, vous enseignez dans le milieu carcéral. C'est une philosophie qui est sans doute pas indépendante de votre biographie du titi parisien et de gamin des banlieues que vous avez été. Vous avez en fait un parcours assez exceptionnel que vous avez construit pas à pas, qui est sans doute le fruit d'une expérience à la fois nourrie d'échecs et de blessures, mais qui ont fait votre force, avec un maître mot qui serait le projet, et puis une philosophie qui est toujours aller de l'avant. D'ailleurs, on le voit à votre double allure, à la fois sage oriental, résultat d'années de culture japonaise et de pratiques d'arts martiaux, et puis un physique, alors, le plus souvent on vous compare à Bruce Willis, physique travaillé dès les plus jeunes années. Il faut bien dire que ce physique à la Bruce Willis, on a tout de suite l'image en tête, il n'est pas complètement usurpé, mais c'est finalement un petit animal que vous avez choisi comme emblème, un petit animal, en fait un insecte. Un insecte qui ne recule jamais devant rien, a fortiori devant les obstacles. Cet insecte, c'est la libellule. D'ailleurs, c'est le titre d'un ouvrage que vous avez écrit, La stratégie de la libellule. En quoi, Thierry Marx, vous sentez-vous proche de la libellule ?
Ah, c'est... Merci de cette question, parce que la libellule, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand j'observe ça sur les bougous des maîtres japonais, je vois la libellule, je comprends pas pourquoi ces grands maîtres du sabre japonais portent cet emblème de la libellule. Puis finalement, grâce à Gilles Boeuf, j'ai étudié cet insecte et je me suis aperçu d'une chose qui est extrêmement intéressante, c'est quand la libellule, d'abord, elle sort d'une vie très difficile. C'est un têtard qui finalement arrive à se métamorphoser en un merveilleux papillon. Et quand cette libellule rencontre un obstacle, elle monte, elle descend, elle va à droite, elle va à gauche, mais elle trouve l'axe cognitif pour passer l'obstacle. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Elle ne recule pas, parce que quand elle recule, c'est pour se reproduire et mourir. Donc il y a cette volonté dans la vie d'aller de l'avant et de se dire, eh bien, quand il y a un obstacle, il faut l'étudier, se poser, mettre du temps entre ses émotions et ses actions, et puis aller de l'avant. Et je crois que c'est un joli symbole. C'est pas très dans la conception de l'art martial, l'espèce de voix du guerrier comme ça, mais Miyamoto Musashi aussi portait, ce sabreur du XVIIe siècle, portait aussi ce symbole de libellule. Je crois qu'il correspond bien à l'état d'esprit que je peux avoir voir dans la vie, mais à les esprits des chefs d'entreprise aussi, qui se battent des fois contre des obstacles qui leur paraissent insurmontables et finalement qui arrivent à trouver un axe pour passer quand même et réussir. Et je trouve ça assez emblématique.
Vous disiez que la libellule, pour commencer, sortait d'une vie difficile. La chrysalide, c'est quand même compliqué de se transformer ensuite en libellule. Est-ce que, si on plonge dans vos origines à vous, Thierry Marx, vous diriez la même chose, vous sortez d'une vie difficile. Si on reprend le début, vous êtes né en 1959, un 19 septembre, dans le 20e arrondissement de Paris. dans une rue qui porte le nom de jeunes immigrés communistes fusillés en 44 par les nazis, la rue du groupe Manoukian.
Oui, c'était fort pour moi ce mot du groupe Manoukian. D'ailleurs, je l'évoquais souvent avec Julien Lauprêtre, qui était le président du Secours Populaire et qui est décédé, hélas, il y a quelques mois. Et on évoquait souvent ce groupe Manoukian, ce groupe de résistants et de ce fameux poème de l'affiche rouge. Et, mais moi, j'en ai fait une force parce que mon grand-père était militant. Et mon grand-père
militant communiste,
et mon grand-père considérait qu'on devait trouver sa place. Donc il me disait, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Donc il faut que tu apprennes à l'école, il faut que tu milites. Et donc effectivement, il m'a incité très tôt, bousculé, à être d'abord en condition physique, parce que mon grand-père pratiquait la boxe française, et il l'a pratiquée quasiment jusqu'aux dernières heures de sa vie. Et il me disait, non, il faut aller de l'avant, il ne faut pas se laisser étiqueter finalement, il ne faut pas se laisser assigner à son extraction sociale. Et ça, pour moi, ça a été, je crois, une de mes premières forces, de considérer que je ne devais pas être assigné ni à un quartier, ni à une extraction sociale, qu'il fallait devoir prendre le sens du combat positif, mais en tout cas du combat quand même.
Pourtant, ces premières années dans le quartier de Ménilmontant à Paris sont des très belles années. Alors vous êtes élevé non pas par vos parents, mais par vos grands-parents, sans doute, parce que les parents ne pouvaient pas se permettre d'élever leurs enfants, l'endroit était trop petit. Mmh. Mais ce quartier, c'est un quartier vivant, plein de commerce. C'est pas un quartier difficile, ça,
non, c'est pas un quartier. C'est pas un quartier difficile. C'est le
quartier populaire.
Le quartier de Ménilmontant, le quartier du 20e, est peut-être à l'époque le plus beau schéma de ce qu'on pourrait appeler l'escalier social.
C'est-à-dire pas l'ascenseur.
Non, pas l'ascenseur, parce que dans l'ascenseur, il n'y a pas la notion de l'effort. Il y a de faire confiance à de la technologie. C'est stupide. Donc, j'ai toujours pris l'exemple de l'escalier social, où cette échelle de valeur me paraît plus saine. Et dans ce quartier du 20e arrondissement, de Ménilmontant, on voyait des gens qui arrivaient modestement dans ces cités ouvrières, en briques rouges en général, dans lesquelles j'étais, et puis finalement arrivaient à devenir contremaîtres, ou cadres, on dirait maintenant, et puis finalement à certains à s'installer comme petits artisans dans ce quartier. Donc il y avait un modèle social qui était extrêmement intéressant, et cette notion donc de dire le bon équilibre d'une société, c'est quand un ouvrier qualifié peut devenir cadre, et de ce cadre peut devenir un chef d'entreprise. Et je crois que c'était le bon équilibre de l'époque. Ça s'est fracturé quand, mais vraiment fracturé, parce que c'était peut-être une des premières cicatrices de ma vie, quand on nous a proposé, les sociétés HLM de Paris, de dire, bah écoutez, vos logements sont trop petits, pour certains insalubres, il faut aller vivre ailleurs. Et quand on nous a proposé ces quartiers de la périphérie, où là, on a senti immédiatement qu'il y avait quasiment une assignation à résidence dans une commune qui ne nous connaissait pas, parce qu'on n'était pas des Campinois, on n'était pas des gens de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, on était des gens détachés des HLM de Paris, dans une espèce de no man's land qui n'existait pas encore, fait que de béton, et avec pour certains la chance d'avoir au mieux un supermarché à côté, mais c'est tout ce qu'il y avait. Donc c'était 3 métros successifs pour y aller, plus 4 bus pour monter jusqu'au plateau de Queilly là-haut, où là il n'y avait plus rien. Et là j'ai senti la fracture sociale dure, parce que nos parents travaillaient dur, pour pas grand chose d'ailleurs, et ils revenaient que le soir, ils partaient très tôt le matin, revenaient que le soir, et on était dans cette cité, dans ces blocs de béton à s'opposer, on comprenait même plus le besoin d'aller au collège, et là on a commencé à voir naître un certain nombre de choses qui pouvaient être de la déshérence.
Là, pour vous, ça a été un point de bascule, Thierry Marx. Peut-être, ouais. On va y venir, bien sûr, à ces années de collège et à cette ambiance de Champigny-sur-Marne où vous étiez. Mais d'abord, je voudrais quand même que vous nous parliez un peu plus de ces grands-parents qui vous ont élevé, qui vous ont inculqué un certain nombre de valeurs, en particulier ce grand-père, Marcel, juif, polonais, communiste, réfugié en France.
Oui, il est arrivé très jeune, il est arrivé à l'adolescence en France. Son père tractait des péniches avec un cheval de trait sur les canaux en France. Il s'est noyé, donc mon grand-père s'est retrouvé seul, a grandi grâce à l'apprentissage d'un métier de forgeron. Et il est devenu français avec la guerre de 14, parce qu'on enrôlait des étrangers, pas tout de suite d'ailleurs, il n'a pas été enrôlé tout de suite. Il a d'abord eu sa nationalité française et ensuite il a été intégré à l'armée française. Il est devenu vraiment français comme cela, et ce qui lui a donné une haine de la guerre. et une envie de militantisme, je pense. Enfin, c'est comme ça qu'il me le racontait, cette de la guerre. Et puis, deuxième bascule, c'est que en 1942, il est arrêté parce qu'il n'a pas de certificat de baptême et qu'il est militant communiste. Donc, il a la chance, contrairement à son frère, d'être arrêté. Son frère n'a pas pu échapper au camp d'Auschwitz, mais... C'est toujours difficile d'en parler, mais et mon grand-père, lui, a pu échapper à ça assez heureusement. Et il s'est retrouvé à Toulouse, un peu sans savoir trop quoi faire, si ce n'est de rentrer un petit peu en résistance à cette époque-là. Donc ça a toujours été un monsieur qui ne voulait me montrer qu'on ne devait pas être assigné ni à une religion, ni à un quartier, ni à une extraction sociale. Donc c'est lui qui m'a poussé vers l'école primaire.
Une certaine école, l'école Pelleport.
L'école Pelleport, alors il me disait toujours, tu sais, il me disait avec ma grand-mère qui avait du mal à lire le français, il me disait, mais et à l'écrire surtout, et il me disait, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire, écrire et compter, eh bien les gens ne te voleront pas. Et donc j'ai gardé l'idée d'aller à l'école, d'ailleurs même mon école primaire s'est plutôt bien passée, comme si j'allais rançonner quelque chose à l'État français qui allait me servir. Donc j'ai compris le pourquoi d'aller à l'école. Contrairement à arriver en banlieue où là je suis dans un collège en préfabriqué où il n'y a plus aucune référence à l'école française finalement, où là je tombe sur un prof qui me dit mais non, il faut apprendre les mathématiques, il faut apprendre... et moi je ne voyais pas à quoi ça pouvait me servir, et c'est là où la fracture a été difficile. Mais dans ce quartier Ménilmontant, où on était tous dans la diversité, on n'en parlerait même pas, c'est-à-dire que les gens arrivaient d'Afrique du Nord, d'Afrique, d'Italie, de Pologne, je crois qu'il y avait 105 nationalités dans ce quartier, on était tous réunis entre la rue Pelleport et la rue Olivier Métra, et on vivait très bien ensemble. Il n'y avait même pas l'esprit de communauté, c'est-à-dire qu'on pouvait être musulman issu du Maghreb, comme on pouvait être juif. On intégrait l'école publique avec, je dirais, la même joie, parce que c'était une vraie joie d'être à l'école publique. J'ai employé un mot assez affreux, mais on morflait tous au même titre. Je veux dire, il n'y avait pas de discrimination évidente, on ne cherchait pas à faire des communautés. Le jeudi, quand il n'y avait pas école à l'époque, eh bien... que vous alliez manger dans une famille juive ou dans une famille d'origine algérienne ou marocaine, ça pose aucun problème. Que les gens le vendredi fassent Shabbat ou que les périodes de Ramadan, personne n'évoquait ça, personne ne cherchait. Tout le monde dans ces écoles du 20e, dans ce 20e arrondissement de Paris, considérait qu'on avait une chance de s'en sortir. Moi, c'est ce que je ressens dans ce 20e arrondissement de Paris, qui reste pour moi un arrondissement modèle de ce que doit être la France. C'est-à-dire qu'un escalier social dans lequel tout le monde peut avoir sa chance, et la seule responsabilité de l'État est de faire en sorte que les marches soient équitables.
Vous disiez qu'il y avait plusieurs communautés, plusieurs origines, avec des artisans un peu partout. Est-ce que c'est là aussi que votre goût pour la cuisine a commencé, avec des odeurs, des saveurs, et justement aller manger chez les uns, chez les autres?
Complètement. Odeur et saveur, peut-être pas tout de suite, mais la première odeur et la première saveur que je goûte de façon extrêmement qualitative, c'est le pain de Bernard Ganachot, 140 rue Ménilmontant, qui était une boulangerie merveilleuse.
Ganachot, l'inventeur de la flûte Ghana.
L'inventeur de la flûte Ghana, et surtout qui avait osé mettre, très innovant, qui avait osé mettre un four en vitrine. Un four en pierre, pour nous, c'était l'attraction. Et je me souviens que c'était le pain du dimanche. C'était un pain un peu plus cher, évidemment, mais c'était le pain du dimanche. Et ça m'a, je pense, fait germer dans mon esprit de l'époque le fait que d'être artisan, de pas forcément être un bon écolier, on pouvait quand même avoir une autre chance. En tout cas, le premier produit de luxe qui reste une référence gastronomique pour moi, c'est quand même le goût du pain.
Votre grand-mère vous disait, peut-être un peu plus tard, mais peut-être aussi en avez-vous le souvenir, Thierry Max, que assez jeune, justement, vous aviez envie d'être boulanger, pâtissier sur un bateau.
Heureusement qu'elle s'est rappelée de ça, parce que c'était à l'époque où je vivais en banlieue. Je rentrais les voir quand ça allait pas très bien dans cette banlieue, pour m'éloigner un petit peu.
Eux
étaient restés dans le quartier Ménilmontant. Et je me souviens que quand on m'a débarqué... de mon lycée professionnel, elle m'a dit, pourquoi tu fais ça? Parce que quand tu étais petit, tu voulais être cuisinier, pâtissier sur un bateau, ce qui veut absolument rien dire. Mais si je faisais une analyse de psy, peut-être, je dirais que, le goût du voyage, ça s'est né probablement dans le 20e aussi, parce que je traversais la rue du Japon, la rue du Cambodge, la rue du Laos, c'était ça le 20e. Et puis, l'aider en cuisine, je trouvais intéressant. Ma grand-mère se mettait vraiment en cuisine une fois par an et je l'aidais, je trouvais ça
une fois par an.
Une fois par an, elle réussissait, elle mettait un an à convaincre l'ensemble de la famille à se réunir. Ça finissait toujours très mal d'ailleurs, mais au moins elle le faisait, on faisait un repas exceptionnel. Puis elle s'est souvenue de mon goût pour la pâtisserie et le dessin, parce que je dessinais beaucoup à l'époque. Et heureusement, au moment où j'étais vraiment en difficulté, très grande difficulté dans ce quartier de Champigny-sur-Marne, eh bien, elle s'est rappelée de ça. Et effectivement, c'est mon grand-père qui m'a présenté chez les Compagnons des Devoirs et qui m'a permis de rencontrer cette, je dirais presque cette famille compagnonique, cette fraternité d'hommes finalement qui m'ont permis de d'abord de m'extraire de la cité des Bois-l'Abbé et des Boulereaux, et ensuite de pouvoir découvrir la France, parce que j'ai appris mon métier en découvrant la France.
En faisant un tour de France. Exactement. Mais il y a quand même eu un point de bascule entre le moment où vous arrivez dans cette cité du Bois-l'Abbé, dans ce collège des Boulereaux, donc en sixième, hein, et puis cette entrée aux Compagnons du Devoir, où votre grand-père est venu vous chercher en vous disant je vais te mettre là, parce que sinon ça va mal tourner. Il s'est passé quand même quelque chose d'important dans votre vie, c'est un point de bascule. Là encore, peut-être, c'est la conseillère d'orientation que vous rencontrez dans vos premières années de collège, à qui vous dites que vous voulez faire l'école hôtelière.
Oui, alors ça c'était difficile parce que je me souviens que la sixième ne fonctionnait pas du tout. On m'a proposé un redoublement sans s'y croire vraiment. On m'a proposé une cinquième dite de transition dans laquelle je suis allé où on ne faisait absolument rien. Une espèce de voie de garage, on n'était même pas obligé de travailler. On n'allait même pas en récréation en même temps que les autres. Et évidemment, au milieu de l'année, il y avait une orientation. Je me souviens que ma mère et mon père avaient été convoqués et on me demande ce que je veux faire. Je ne sais pas pourquoi, quelle lubie de l'époque, où j'avais pas du tout le profil pour faire ça, mais je dis je veux faire l'école hôtelière. Et elle me dit ah non mais l'école hôtelière c'est pas pour des gens comme vous. Alors j'ai pas été gêné par mon apparence de l'époque où c'était plutôt perfecto et d'essayer de montrer que je pouvais être une
gros
petite
bras.
Frappe comme ça, mais c'était pour mes parents que ça m'a gêné parce qu'ils ont toujours fait tout ce qu'on leur a demandé de faire, bosser sans jamais s'arrêter, faire la guerre quand il fallait faire la guerre, et je me souviens que j'avais été gêné pour eux et finalement on m'avait mis en mécanique générale. Pour les gens comme moi, finalement, les gens de la cité, c'était la mécanique générale. Et ça, ça m'a mis un petit peu hors de moi. Et heureusement, je crois que comme quoi il faut faire l'analyse des choses par moment, heureusement, j'étais bon au sport. Et le club de judo...
Vous faisiez du judo depuis l'âge de 6 ans.
Ouais, les clubs de judo de Champigny-sur-Marne m'avaient récupéré. Et il y avait un prof là qui traînait toujours dans la cité, qui venait nous chercher. Judo et boxe d'ailleurs. Et il venait me chercher et on allait au judo. Et j'ai découvert dans le judo une autre façon d'apprendre. Je dirais d'apprendre par le geste. Une espèce de règle des 3 M. Mimétisme, mémoire, maîtrise. Vous commencez à essayer de regarder un geste, de l'apprendre, de vous l'approprier, et ensuite vous devenez innovant avec ce geste. Et ça, je crois que c'est le judo qui m'a donné le goût du travail manuel, finalement, qui me l'a révélé, parce qu'il y avait vraiment cette envie de copier le prof, le sensei, comme on dit au Japon, et il y avait cette volonté de l'égaler. On n'y arrivait pas, bien entendu, mais en même temps, on était capable de répéter des heures entières et d'essayer de passer le même mouvement de judo que lui. Et finalement, quand je suis arrivé chez les Compagnons pour apprendre mon métier, j'ai trouvé le même transfert. Les Japonais disent « shuari », apprends et tais-toi, en gros, apprends et comprends, ensuite innove. Et ça, ça a été une vraie bascule de transfert pour moi, d'avoir le sport comme autre cadre éducationnel. Et je me souviens que ce gars qui venait nous chercher dans la cage d'escalier, parce qu'on ne traînait que dans les cages d'escalier, et on s'affrontait d'ailleurs entre cages d'escalier...
Il y avait des bagarres, quoi.
Ah, c'était la monnaie courante. Et on s'affrontait contre cité, etc., etc. Et je me souviens que ce prof nous laissait pas une minute de répit. Il venait, il nous récupérait dans sa voiture, ce qu'on pourrait plus faire maintenant. Hein. Et puis, il y avait un autre monsieur, qui s'appelait Monsieur Rodriguez, qui lui faisait de la boxe, et nous emmenait dans sa fourgonnette, nous emmenait au ring Montreuilois, ou à la porte Saint-Ouen, nous exercer à la boxe. Et finalement, de nous poser, j'ai eu la chance de tomber dans ces cadres éducationnels qui ont été posés. Et je crois que ça m'a fait prendre confiance en moi. Donc j'ai osé quitter la cité. Et puis alors, dans ces compétitions, il y avait d'autres profils. Il n'y avait pas que les profils des gens de la cité. On allait à Vincennes, on allait dans des quartiers beaucoup plus huppés. Et finalement, on s'apercevait que un combattant, c'était un combattant. Il fallait gagner ou perdre, mais en tout cas, il y avait quelque chose de sain là-dedans qui me paraissait intéressant. Et surtout, c'était le cadre éducationnel qui m'empêchait finalement de rester dans mon phénomène de silo, qui était le phénomène de la cité où il fallait toujours en découdre pour traverser la rue, il fallait en découdre pour aller acheter son pain, fallait parce que sinon on se faisait racketter. Enfin, c'était donc il fallait toujours montrer les biceps et sans beaucoup de réflexion d'ailleurs. C'est celui qui terrorisait l'autre finalement qui arrivait à passer. Or que le sport m'a complètement décodifié de ça et m'a redonné confiance en moi. Et m'a probablement donné en amont le goût de l'effort probablement et le goût de l'apprentissage par le travail manuel.
En même temps, ça a peut-être pas suffi en tous les cas aux yeux de Marcel, votre grand-père, non. Qui donc trouvait quand même que entre le décrochage scolaire, les bagarres, ouais. Les larcins, vous tourniez mal, et qui donc est venu vous chercher pour vous mettre au compagnon du devoir.
Ouais, alors. Ça a été étonnant, parce qu'il est venu me chercher. D'abord, j'étais en très très mauvais espace dans mon quartier, donc je suis retourné vivre chez mon grand-père, ma grand-mère était décédée, et il m'a dit, mais c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça, quoi. C'était pas concevable. Donc il m'a aidé à chercher un apprentissage, un petit peu de tout, et puis il m'a raconté un peu l'apprentissage, les compagnons des devoirs unis, tas de choses comme ça et le côté militant que ça pouvait avoir, mais tout en restant la noblesse du monde ouvrier. Et je me souviens qu'il m'a présenté et j'ai adhéré tout de suite.
C'était quoi les compagnons du devoir?
Alors c'est 900 ans de formation professionnelle pour des gens qui étaient des fois écartés, qui étaient écartés des systèmes économiques.
C'était déjà l'école de la deuxième chance
c'était
à ce moment-là.
Même mieux que ça, c'était une école de l'épanouissement et puis de faire des gens indispensables parce que soit la monarchie utilisait les compagnons des devoirs et ensuite ça a perduré en société un peu secrète, du moins discrète de fonctionnement et elle n'avait que ce système de transmission par l'oral. Par la transmission, par le geste, par la main, et cette intelligence de la main. Et ça, c'est j'ai adhéré tout de suite, parce que je me souviens de ce que m'avait dit un compagnon quand je suis arrivé à la maison de Paris. Il m'avait dit, on est la noblesse du monde ouvrier. Bon, ça m'avait suffi, parce que moi qui vivais dans des cités ouvrières, où on était toujours rabaissé à notre statut social, là, il nous dit, on est la noblesse du monde ouvrier. Et je me souviens d'un compagnon à Montauban, qui avait écrit sur son livret de compagnonnage, « Salaire honnête, ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie. » Et il disait, tu vois, ça c'est notre force, on fait partie de ces ouvriers d'élite, donc on doit rendre un travail d'élite, mais en même temps il doit être payé correctement. Et si c'est pas payé correctement, ben on va ailleurs. Et ce nomadisme dans le travail, cette reconnaissance de la valeur travail, j'ai adhéré, j'adhère encore. Parce qu'aujourd'hui, ça sauve des vies. Ça sauve des vies, il faut pas l'oublier, c'est encore un modèle de formation où on vous montre qu'il n'y a pas de conflit sérieux entre la tradition et l'innovation. Dans une société où on a cru au taylorisme, or qu'elle a écrasé le monde ouvrier, or que le monde de l'artisanat et le monde des compagnons de voir a anobli le monde ouvrier en le rendant indispensable. Et de cette phrase, salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie, je trouve que ça résume bien ce que doit être une société aujourd'hui. Je ne veux pas paraphraser Orson Welles aujourd'hui, mais dans cette phrase d'Orson Welles, on entend souvent, on connaît la valeur, le prix des choses, mais pas la valeur. Et chez les compagnons, on apprend à connaître la valeur des choses, et la valeur n'est pas dans le prix. Et ça, c'est intéressant, et ça fait encore mon modèle de société d'aujourd'hui.
Et vous avez passé, pendant ces années-là, votre CAP pâtissier.
Oui, chocolatier.
Glacier, chocolatier.
Oui, oui, oui. On passait toutes ces phases à cette époque-là. Alors, il y avait d'ailleurs sur mon diplôme, il y a marqué pâtissier, chocolatier, glacier. Ouais. Et donc, j'ai fait les stages et voyagé dans toute la France. Et j'en garde un souvenir ému des anciens qui transmettaient que par le geste et qui transmettaient que par la parole donnée. Il y a très peu d'écrits. Et finalement, on se forçait à écrire les recettes, les carnets de recettes, les carnets de Tour de France. On allait au cours le soir, mais on allait au cours avec d'autres aspirants compagnons. Il y avait des charpentiers, il y avait des tailleurs de pierre, il y avait tous les métiers manuels. mêles existants chez les compagnons. Et finalement, on partageait des troncs communs qui étaient extrêmement intéressants. J'ai appris le trait, comme ça, à regarder une cathédrale, à regarder un labyrinthe, à regarder une charpente, à sentir l'essence du bois. Ça, c'est ce qu'on partageait avec les autres aspirants compagnons. Donc, c'était vraiment, c'est un modèle de vie pour moi exceptionnel, vraiment. D'ailleurs, je garde, ils le savent, beaucoup de sympathie pour eux et je suis toujours assez actif quand ils me le demandent chez les compagnons d'Edouard et d'Edouard Unis, parce que c'est des jeunes gens aujourd'hui qui trouvent une voie grâce à ce compagnonnage, mais aussi un écosystème bienveillant qui se construit sur la critique. Dans une société où on n'aime plus la critique, on déconsidère la critique, or que les compagnons de voir, quand vous formez, vous êtes basé que sur la critique, jamais sur le compliment. Mais c'est une critique positive pour vous faire progresser, pour vous faire aller plus loin que ce que vous avez réalisé. C'est le plus, plus, plus. Donc ce qui fait de vous un être vivant, permanent, présent et avoir cette volonté toujours de se dépasser.
Thierry Marx, là, on a évoqué les, disons, 16, 17 premières années de votre vie. Oui. Est-ce que quand vous regardez ces 16 ou 17 premières années, aujourd'hui, vous vous dites, finalement, tout s'est joué là, et tout s'est joué là des deux côtés, des deux jambes, c'est-à-dire à la fois l'humiliation et la force?
Oui, oui, tout s'est joué là. Comme je ne savais pas le résumer, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, La stratégie de la libellule, parce que il n'y a pas de recette pour l'épanouissement, il n'y a pas de recette pour la réussite, ça n'existe pas, la chance n'est pas quelque chose qui arrive comme ça un matin, c'est quelque chose qui se construit, et je m'aperçois que ces années-là, tout s'est joué durement, ça a été aussi assez dur après, mais ça s'est joué durement, parce que ça a pu être par moments assez anxiogène, ça a pu être douloureux, ça m'a coupé d'un monde qui me rassurait. Le quartier, c'était les copains, les copines, et donc il a fallu se couper de ça, donc il a fallu lâcher la main du passé. Et ça, c'est toujours difficile de lâcher la main de ce qu'on connaît. La vie, c'est toujours la règle des 80-20. C'est 80% vous construisez et 20% c'est la mer de l'incertitude à traverser. Et cette mer de l'incertitude, eh bien, il faut la traverser, il faut s'adapter très très vite. Et je crois que ces premières années m'ont plutôt, je dirais les 20 premières années m'ont appris ça. Je regarde ça comme un pilier fort de ma vie. D'ailleurs, dans mon modèle managérial d'entrepreneur, je puise dans les valeurs du sport et dans les valeurs du compagnonnage pour construire des modèles adaptés à nos entreprises.
On continuera demain, Thierry Marx, cette
plaisir.
Conversation. On abordera les années suivantes qui n'ont effectivement pas été qu'une mer tranquille. On verra ça demain. Merci.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Caroline Brouet avec Thierry Marx. À voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son Amandine Grevoz, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.